Concernant la situation sécuritaire, nous avons le lieutenant-colonel Amouzoun Kodjo-Martin, si bien sûr la connexion s'y prête, porte-parole militaire à partir de Goma. Nous avons comme invité spécial ce mercredi, il s'agit de M. Marc Saba, directeur pays de l'ONU-SIDA en RDC, qui interviendra à partir de Kinshasa, donc ici, à l'occasion de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur la fin du SIDA devant se tenir du 8 au 10 juin 2016 à New York. Nous démarrons donc ce rendez-vous hebdomadaire avec la réaction de la MONUSCO sur l'article paru dans le journal Le Potentiel sur des sanctions prévues par le Sénat américain visant des Congolais. En effet, cette semaine, le journal Le Potentiel a écrit un article ayant pour titre « 38 Congolais visés par des sanctions au Sénat américain » qui affirme, selon des sources, que New York aurait également ajouté des noms avec le concours de la MONUSCO qui s'est déclarée préoccupée à travers l'Africain Maman Sidiko. Cette information est erronée. La MONUSCO a un mandat clair qui ne fait aucunement mention de transmission de noms à une quelconque institution pour sanction. La MONUSCO dénonce donc ces allégations et demande aux médias d'éviter tout amalgame et de s'en tenir à la déontologie et l'éthique du travail de journalistes qui demandent une vérification des faits au préalable. Déclaration de l'ONG CAS mettant en cause la MONUSCO pour le blocage du processus électoral. Sur ce point, au cours des dernières semaines, les médias congolais et internationaux ont commenté sur la visite des experts de l'ONU en RDC. Donc, pour poursuivre donc à partir de Kinshasa, j'en étais donc sur la déclaration de l'ONG CAS et je disais que au cours des dernières semaines, les médias congolais et internationaux ont commenté sur la visite des experts de l'ONU à RDC du 24 au 10 mai. CAS, une ONG locale, a partagé cette semaine sa déclaration avec plusieurs médias en demandant entre autres à la MONUSCO de publier les conclusions du travail de ce groupe d'experts sur l'élection. La tâche des experts de l'ONU lors de cette visite consistait à évaluer le progrès lié aux préparations des élections prochaines au pays. Ils ont aussi examiné comment la MONUSCO pouvait appuyer les efforts pour la mise à jour des fichiers électoraux tels que demandés par le Conseil de sécurité. Les experts sont actuellement en train de finaliser leur rapport. Selon les procédures fiables et établies, ce rapport n'est pas destiné au public. Après avoir été finalisé, il sera transmis au secrétaire général. Le secrétaire général a déclaré à plusieurs occasions que la tenue des élections crédibles dans le cadre de la Constitution est d'une importance cruciale pour consolider le progrès réalisé en RDC au cours de la dernière décennie. Il a encouragé tous les acteurs congolais à s'engager résolument dans un dialogue constructif afin de préparer le terrain sur ces élections. La MONUSCO ne bloque donc pas le processus électoral comme l'a affirmé l'ONG CAS dans son rapport. Le processus électoral est géré par les autorités nationales et la CENI pour ce qui concerne l'aspect de l'organisation des élections. La résolution 2277 demande à la MONUSCO d'assister la CENI à mettre à jour le fichier électoral et d'appuyer le dialogue national piloté par le facilitateur de l'Union africaine en usant de ses bons offices. Information sur la police MONUSCO. Le 28 mai s'est déroulée à Béni la cérémonie de clôture de la session de recyclage en maintien et rétablissement de l'ordre public et des gestes techniques professionnels d'intervention. 115 cadres et agents, dont 4 femmes de la police nationale congolaise de la ville de Béni, ont bénéficié de cette formation. Elle a été mise en œuvre dans le cadre de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Béni-Oicha. Plusieurs personnalités de la MONUSCO et de la PNC Ville de Béni et plusieurs autres autorités administratives ou coutumières ont été présentes à cette cérémonie qui a été l'occasion pour les stagiaires de restituer les gestes et techniques appris au cours de la formation, notamment celles d'escorte de hautes personnalités de gestion d'attroupement. Le but poursuivi par cette formation était entre autres la préparation physique et professionnelle des participants pour leur permettre d'agir avec efficacité et professionnalisme, surtout à l'approche des échéances électorales. Les participants ont remercié la police MONUSCO pour la qualité du travail effectué sur le terrain, dans le cadre de la protection des civils, du renforcement de l'autorité de l'État et du respect des droits de l'homme, ainsi que la PNC pour sa collaboration qui a permis la réussite de cette session de recyclage malgré les nombreuses contraintes sécuritaires du moment. Le chef secteur UNPOL et le commandant par intérim de la PNC Ville de Béni ont appelé les stagiaires à mettre la personne humaine au cœur de leurs actions afin d'agir avec professionnalisme tout en respectant les droits de l'homme dans la gestion des foules. Le représentant de la PNC a félicité la MONUSCO pour les différentes actions et réalisations faites au profit de la PNC Ville de Béni et a souhaité que d'autres actions du genre soient menées au profit des populations civiles. Le général Tabaski Diouf, adjoint au chef de la composante police, a présidé le 26 mai la cérémonie de clôture de la session de formation des points focaux genre UNPOL à Goma. À cette occasion, il a exhorté les participants à faire un bon usage des connaissances acquises au cours de cette formation et à les partager avec tous les collègues pour une meilleure prise en charge des questions liées au genre et aux violences basées sur le sexe au profit des populations civiles dont la protection constitue un pan très important du mandat de la police MONUSCO, en particulier de toute la mission en général. Les 22 et 23 mai, l'administrateur adjoint du territoire de la province de l'Ituri, chargé des affaires politiques et administratives, a présidé, en présence de UNPOL, la cérémonie officielle d'inauguration de 3 bâtiments devant servir de bureau à la PNC dans le territoire de Mambasa. Il s'agit des commissariats de Mambasa, de Niania et du sous-commissariat d'Epoulou, tous entièrement équipés, financés par l'Organisation internationale de la migration, en partenariat avec le gouvernement congolais à travers le projet STAREC. La réhabilitation de ces 3 bâtiments vise à doter la PNC de bons cadres de travail. Les différents intervenants à cette cérémonie ont adressé leurs remerciements à la MONUSCO, à l'OIM et à tous les partenaires qui ont œuvré pour la mise en œuvre de ces ouvrages. Ils ont ensuite, tour à tour, invité les populations à préserver ces chefs-d'œuvre contre tout acte de vandalisme et la PNC à en faire un bon usage. Tout de suite, je passe la parole à Florence Marchal pour l'actualité humanitaire et de développement. Florence, c'est à vous.
Oui, merci Théophane. Bonjour à tous. Nous en avions parlé ici même, il existait un vide en matière de devoirs de précaution dans les relations contractuelles entre le système des Nations Unies et des entités civiles en RDC. Eh bien, ce vide est désormais comblé suite à l'adoption par les Nations Unies en RDC, ces 22 agences, fonds et programmes et la MONUSCO, l'adoption donc de lignes directrices qui encadrent ces relations. Alors, chaque agence, programme, fonds des Nations Unies ainsi que la MONUSCO doit, avant le recrutement de personnel, la souscription à des contrats d'acquisition de biens et services, l'achat d'actifs ou la location de biens immobiliers, s'assurer proactivement que ces personnes ou entreprises ne sont pas impliquées dans des violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, dans des violations du droit du travail, dans des activités criminelles ou illégales, ou encore incitent ou soutiennent la violence ou les conflits armés. En cas d'allégation crédible contre une personne ou une entreprise, chaque agence, programme, fonds des Nations Unies ou la MONUSCO doit renoncer à établir un contrat avec cette personne et ou cette entreprise. Elle doit aussi porter les allégations à l'attention des autorités du pays. Ces mesures s'appliquent également pour les contrats en cours. Cette initiative a pour but de prévenir le blanchiment de ressources générées par l'exploitation illégale des minéraux, les violations des droits de l'homme et de lutter contre le crime organisé. Une conférence qui s'est tenue la semaine dernière à Bukavu nous amène à nous pencher sur la malnutrition dans la province du Sud Kivu et en RDC. Selon l'enquête démographique et de santé 2013-2014, la prévalence de la malnutrition chronique est de 53% au Sud Kivu et de 43% au niveau national. La RDC se situe dans la liste des pays ayant le plus grand nombre d'enfants malnutris chroniques, plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans. Un enfant malnutri pendant les 1000 premiers jours de sa vie ne pourra jamais jamais développé tout son potentiel, les séquelles sont irréversibles. Des solutions simples à mettre en œuvre existent afin de faire reculer la malnutrition, notamment l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, l'alimentation de compléments à partir de 6 mois et des pratiques améliorées d'hygiène et d'assainissement. Bien qu'il existe en RDC une politique nationale multisectorielle de nutrition, le gouvernement devrait investir 4 fois plus dans la nutrition et les bailleurs devraient doubler leur contribution dans ce secteur. L'UNICEF soutient le gouvernement de la RDC afin que la nutrition soit considérée comme un élément central du développement et que les interventions de nutrition se focalisent sur les groupes les plus vulnérables. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, vient de remettre une plateforme technologique aux associations de pêcheurs et mareyeurs du village de Lemvo dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Conçue pour aider les transformateurs de poissons à petite échelle à préparer et à commercialiser des produits de qualité issus de la pêche, cette nouvelle plateforme permet de réduire significativement les niveaux de perte de ressources après capture. Et ensuite, si ce qui est installé actuellement au Congo central fonctionne, ce sera étendu à d'autres provinces de la RDC. 30 agents et cadres de la PNC ont participé lundi dernier à une session de recyclage dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. L'objectif de la session était de contribuer au renforcement des connaissances des éléments de la police afin d'améliorer leurs prestations en faveur de la population. Cela s'encadre dans le cadre d'un projet STAREC mis en œuvre par le PNUD, OIM et ONU Habitat. Hier, ont débuté les conclusions orales dans l'affaire du procureur contre Jean-Pierre Bemba, Kilolo et consorts pour atteinte à l'administration de la justice. Les conclusions devraient durer jusqu'à demain, jeudi, et en audience publique devant les juges de la chambre de première instance numéro 7 de la CPI. Suite à ces conclusions, les juges commenceront leur délibération et le jugement sera prononcé ultérieurement. Et puis, le 6 décembre 2016, c'est la date qui a été fixée pour l'ouverture devant la chambre de première instance numéro 9 de la CPI du procès dans l'affaire du procureur contre Dominique Ongwen. Dominique Ongwen, ancien commandant allégué au sein de la brigade Signa de l'armée de résistance du Seigneur, qui devra répondre de 70 charges de crimes de guerre et contre l'humanité, crimes qui auraient été commis entre 2002 et 2005 en Ouganda.
Merci Florence et encore une fois toutes nos excuses pour les balbutiements techniques que nous avons connus. Et en principe, on devait repartir sur Goma pour la partie militaire et comme la connexion n'est pas bonne, je continue ici. La situation militaire en République démocratique du Congo, la poursuite des opérations conjointes forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO contre les groupes armés étrangers et nationaux dans certaines provinces de l'est du pays a été au centre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est notamment la traque des ADF dans la ville et en territoire de Béni. Il a été aussi rapporté l'activisme de plusieurs groupes locaux dans certains territoires du Nord Kivu, ainsi que l'activisme intense des FDLR et alliés. Nous, MONUSCO, conformément à notre mandat de protection des civils, ensemble avec nos partenaires FARDC, continuons à travailler ensemble pour renforcer notre coopération et joindre nos efforts pour neutraliser tous les groupes armés dans l'objectif de mettre un terme à leurs actes et à leurs actes criminels contre les populations civiles. Commençons par les provinces du Haut-Uele et du Bas-Uele. Ici, les forces onusiennes et congolaises poursuivent avec détermination leurs activités militaires visant à l'éradication effective de l'armée de résistance du Seigneur. À Ituri, l'environnement sécuritaire a été marqué par la poursuite des opérations militaires menées par l'armée congolaise avec le soutien de la MONUSCO contre les groupes armés dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu et dans celui de Mambasa. Il s'agit notamment du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, de l'Alliance des Forces Démocratiques et du groupe Mai Mai Simba qui commettent des exactions contre les populations civiles. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est dominée par la poursuite des opérations conjointes de grande envergure MONUSCO-FARDC contre tous les groupes armés malgré l'activisme récurrent de ces derniers contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité congolaises. Dans le territoire de Béni, les présumés éléments de l'ADF ont attaqué au cours de la période sous examen les populations des FARDC à Opira et Kokola. Les FARDC, appuyés par la force de la MONUSCO, ont repoussé l'attaque et renforcé leur position dans la localité. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans les localités et Derengeti. L'activisme des groupes armés a été rapporté dans les autres territoires, notamment les FDLR et leurs alliés Nyatura dans le Lubero, le Rutshuru et le Nyaragongo, où ces derniers commettent des exactions contre les populations civiles. Du 28 au 30 mai 2016, les FDLR ont attaqué trois positions des FARDC dans les localités de Katwa, environ 14 km de Yimbi, en territoire du Nyaragongo, à Rusao, environ 7 km au nord de Goma. Le bilan reste à confirmer. Ces mêmes rebelles ont également, dans la même période, embusqué et pillé trois camions civils à Niabéré, environ 10 km au nord-est de Kassalé, et à Birouma, dans les localités de Katali. Dans le territoire de Massissi, les APCLS poursuivent les exactions contre les populations civiles. Dans le Walikale, les affrontements entre les deux factions NDC ont provoqué le déplacement de populations civiles des localités de Kempebe et de Bunyadiri. Il a été rapporté toujours dans le Walikale l'activisme du Raya Mutomboki dans le secteur de Bakonjo. Ces derniers commettent des exactions contre les populations civiles. En début de la semaine dernière, toujours à Walikale, les combattants de NDC Cheka ont pillé trois groupements de Lubériki. La MONUSCO vient en appui aux FARDC dans la lutte contre ces différents groupes armés afin de protéger les populations civiles. La MONUSCO appelle tous les acteurs engagés dans le processus de neutralisation des groupes armés illégaux à une nette collaboration dans la lutte contre les criminels afin que les populations civiles retrouvent leur quiétude. La MONUSCO est totalement engagée auprès des FARDC dans la neutralisation des groupes armés et appelle tous les éléments des groupes armés à se dissocier de leurs leaders et adhérer au processus DDR. Au sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises continuent d'exercer la pression militaire sur les éléments des groupes armés encore actifs dans le but de mettre un terme à leur activisme contre les populations civiles. Enfin, au Tanganyika, des unités de la force de la MONUSCO et celles de l'armée congolaise qui y sont déployés contrôlent la situation sécuritaire malgré l'activisme de quelques groupes armés. Et comme je vous le disais tantôt, à l'entame, nous avons un invité qui est le représentant de ONU-SIDA en RDC, et Monsieur Marc Saba. Monsieur Marc Saba, je vous passe la parole pour une introduction avant qu'on ne passe à la partie questions-réponses. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire merci à la MONUSCO pour m'avoir donné l'opportunité de partager les informations relatives à la prochaine réunion de haut niveau sur le SIDA organisée par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui se tiendra du 8 au 10 juin prochain. Je remercie également les médias et les journalistes pour leur présence massive à ce point de presse et je remercie Mme Machal pour la facilitation. Revenant au sujet principal, à titre de rappel, le monde vient de faire le bilan des objectifs du millénaire pour le développement. Et lorsqu'on voit ce bilan, l'objectif en lien avec le VIH a été une des principales satisfactions. En ce sens que, en fin 2015, 15,8 millions de personnes ont été mis sous traitement antirétroviral. Et nous avons également constaté dans beaucoup de pays que la prévalence du VIH est en train de baisser. Et dans certains pays, il y a une stabilisation. Donc, il y a des acquis réels. Et les nouveaux objectifs de développement durable projetés pour 2030 placent le VIH également parmi les priorités. Pourquoi cette réunion de haut niveau? Je pense qu'il y a des éléments importants qu'il faut donc rappeler. En 2011, il y a eu une réunion à New York. Et cette réunion a été sanctionnée par un engagement politique à haut niveau, de haut niveau, par les chefs d'État, par les chefs de gouvernement. Et l'objectif était d'accélérer la réponse et d'atteindre l'accès universel. Et donc, pour nous, il est opportun, disons, de faire, disons, le point, un bilan, disons, des engagements pris, disons, par les États. Le deuxième élément, c'est de voir dans quelle mesure, vu les résultats très positifs, vu disons, les nouvelles technologies Donc, nous sommes à même de dire que nous pouvons mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030. Donc, la réunion de New York vise à discuter des nouvelles priorités, des stratégies, afin de voir dans quelle mesure nous pouvons effectivement donc mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030. Je pense que la question très souvent, lorsqu'on dit qu'on peut mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030, il y a beaucoup qui disent comment cela est possible. En fait, il est possible de contrôler, l'épidémie de sorte que ça ne soit plus, un problème de santé publique. Je crois qu'il faut comprendre cela par, mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030. Il est également envisagé, au cours de cette discussion, de voir dans quelle mesure on peut adopter, de nouvelles stratégies visant à accélérer la réponse d'ici les 5 prochaines années. Nous avons là une fenêtre d'opportunité que nous devons exploiter. Les ressources sont disponibles. Nous avons, les connaissances scientifiques aujourd'hui pour accélérer, avoir plus de personnes qui aillent pour le dépistage et pouvoir mettre plus de personnes sous traitement. Comme vous le savez, les personnes qui sont sous traitement ne transmettent plus, le virus. Donc c'est aussi une manière, de prévenir, les nouvelles infections. Et nous, qu'au cours de cette réunion qui va regrouper les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les partenaires financiers, la société civile, les organisations, des femmes, des jeunes, on mettra sur table, des questions primordiales telles que les questions des droits de l'homme liés au VIH. Vous savez que dans beaucoup de pays, il y a toujours la stigmatisation et la discrimination. Il y a toujours des barrières liées au fait que les ressources domestiques ne sont pas, mises contribution pour accélérer la réponse et amener, les différentes parties prenantes à prendre, des engagements. Et cette donc réunion de haut niveau sera sanctionnée par une déclaration politique qui confirme et qui engage l'ensemble, des États pour travailler en vue, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030 et bien sûr également accélérer la réponse, d'ici au cours des 5 prochaines années. Je crois qu'il y a encore, je reviens un peu à la situation au niveau de la RDC, des progrès ont été donc réalisés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 120 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral en RDC. Cela représente 32% des personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être mises sous traitement. Alors, mais si on remonte en arrière, il y a dans les années 2010, nous avions donc vraiment un effectif plus petit, un effectif très bas de personnes qui avaient accès au traitement. Si nous prenons par exemple la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, la RDC aujourd'hui on a 64% de couverture. Je crois que c'est appréciable si on regarde la moyenne au niveau africain. Donc il y a des motifs de satisfaction, il y a des motifs d'espérance qui montrent que réellement, si l'engagement politique est là, si il y a une articulation des acteurs et une meilleure cohésion et une meilleure synergie dans la mise en œuvre des programmes, réellement on peut faire la différence, on peut espérer contrôler l'épidémie. Donc et je dois dire que la RDC qui sera représentée à cette conférence par une vingtaine de délégués est bien préparée. En cela que les 10 et 11 mars dernier, il y a eu des consultations au niveau du pays qui ont consisté à réunir plus de 137 délégués de la société civile, du secteur privé et des gouvernements, des secteurs publics, qui ont discuté à fond sur quelles sont les nouvelles stratégies qu'il faut mettre en place au niveau de la RDC, quels sont les défis auxquels le pays est confronté et comment donc relever ces défis pour permettre que la mise en œuvre des programmes de lutte contre le sida puisse se dérouler dans les meilleures conditions et puisse avoir un impact réel sur le terrain. Donc, je pense que le pays part avec des propositions concrètes qui, au-delà, des défis et au-delà des stratégies au niveau national et des priorités, va contribuer, d'une manière générale, à la déclaration politique au niveau donc, global. Donc, je dois vous dire que c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'espoir que la RDC va participer à cette conférence. Et nous espérons que les résultats et les engagements qui seront pris par, les différents acteurs vont permettre réellement d'avoir plus de moyens d'avoir plus, disons, d'engagement politique à tous les niveaux afin que nous puissions avoir plus de personnes qui puissent avoir accès au traitement, que nous puissions avoir, disons, créer les conditions au niveau national pour, disons, éliminer ou réduire la stigmatisation et la discrimination afin que nous puissions apporter des réponses, disons, aux personnes infectées ou affectées, disons, par cette pandémie. Je vous remercie.